C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
La puce à l'oreille aujourd'hui enregistrée à l'hôtel Ibis. Nous sommes à côté du conservatoire de Douai, là où l'orchestre de Douai Région de France donne ses concerts dans l'auditorium Henri Dutilleux. J'ai le plaisir de retrouver le compositeur Philippe Chamoire. Philippe Chamoire, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve parce qu'on s'est croisé il y a 3 ans de ça. Et c'était à l'occasion d'enregistrement de vos œuvres, me semble-t-il. Il y avait un concerto pour 3 concertos qui étaient enregistrés, et notamment un concerto pour basson, je me souviens très bien. Quel souvenir vous gardez de ces 3 ans ?
Écoutez, je garde un très bon souvenir puisque je suis là à nouveau, donc au bout de 3 ans. Donc c'est avec l'orchestre, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai découvert à l'époque, je ne le connaissais pas, grâce à Jean-Jacques Cantoro qui était là et qui m'a dit « mais si, il faut venir enregistrer, il faut venir travailler, il faut faire travailler l'orchestre, il faut faire jouer un compositeur vivant et il n'y en a pas tant que ça à l'orchestre de Douai. Donc ça sera une expérience pour l'orchestre, pour vous, pour tout le monde. » Et c'est vrai que ça a été extraordinaire, je dois le dire, parce que, alors c'est peut-être pas une référence, mais le disque a obtenu des prix, c'est peut-être le meilleur disque que j'ai fait dans ma carrière, a obtenu beaucoup de récompenses, a été aussi beaucoup diffusé au Canada, et donc ça a fait connaître l'orchestre, et je pense que c'est bien c'est de changer des grandes phalanges orchestrales.
À l'époque, vous m'aviez dit, je dois être malade parce que j'arrive pas à m'arrêter de composer. Et à chaque fois que je me dis j'arrête, j'y retourne. Vous n'êtes pas soigné ?
Non, mais c'est une drogue. Mais il vaut mieux que ce soit une drogue finalement que qu'un travail. Je ne le considère pas comme un travail. C'est une passion et malgré ce qui peut arriver, malgré les difficultés, parce que je le disais à l'instant, que finalement je passe plus de temps à avoir des contacts, à trouver des concerts, à chercher des subventions, à chercher des décideurs de concerts qu'à composer. Mais c'est fini cette époque-là. Donc on doit faire un travail d'agent, puisqu'en France, c'est très difficile d'avoir un agent pour un compositeur. Donc voilà, tout ça, c'est un métier de fou. Mais finalement, la folie et l'art, ça va bien ensemble.
Il y a toujours de la place tout de même pour trouver le temps, l'espace nécessaire, le moment de la composition.
Oui, bien sûr. Normalement, c'est le matin. Donc, normalement, ça ne déroge pas. Mais malgré ça, si je reçois un coup de téléphone de Berlin ou de New York, je suis quand même obligé de répondre. Donc, ça bouscule. Mais j'essaie de préserver ce moment, en tout cas lié, oui, à l'orchestration. Pas forcément à la composition, mais en tout cas au travail lié à une partition. Alors, ça peut être la révision, ça peut être une orchestration, ça peut être un travail de réflexion sur ce qui a été fait il y a quelques années, parce que je fais partie de ces compositeurs qui se remettent souvent en question, et je trouve que c'est quand même une recherche intéressante que le doute, s'il n'est pas destructeur, soit positif. Donc le doute est là pour permettre d'avancer, de regarder en arrière d'un œil ou d'une oreille plutôt objective ou plus lointaine, et de dire voilà, sans refaire tout, parce que vous savez que j'ai tout détruit en 1987, bon, ça c'était très nihiliste, donc je fais plus ça, mais je garde quand même un côté tellement extérieur, enfin j'essaye, pour me dire finalement ça, est-ce que je garde ce que je garde pas, finalement c'est quand même un travail intéressant, sans gommer ce qui a été fait, parce qu'il y a 10 ans, évidemment, j'écrivais pas de la même manière que maintenant, mais je trouve avoir un certain regard. J'ai des choses que je trouvais intéressantes, d'autres que je trouve moins ou peut-être plus maladroites. Donc ça fait partie aussi du travail du compositeur.
Ces œuvres antérieures à 87, il n'y a jamais eu le désir, le souhait de les faire renaître tel le phénix ?
Non, pas du tout. Beaucoup de personnes, ça les choque quand je dis ça. J'ai tout détruit, mais comment c'est possible en fait ? Il n'y a pas un regret. Non, c'est une décision qui a été prise. C'est-à-dire l'année de 87, ça correspond à l'année avec, comme par hasard, je m'en suis aperçu bien après, l'année de naissance de mon deuxième enfant. Et depuis, il n'y en a pas eu. Ma femme ne voulait pas en avoir d'autres. Donc c'était une année importante d'avoir ce deuxième enfant. Finalement, c'était une renaissance. Et ça a correspondu avec cette destruction des œuvres du passé. Donc vous voyez, c'est à la fois, je pense, intime et musical. Donc non, il n'y a pas du tout de doute par rapport à ça.
Vous faites partie de ceux dont on ne peut pas séparer l'homme de l'œuvre.
Mais jamais on peut séparer l'homme ou la femme de l'œuvre. Comment vous pouvez poser une question pareille? On croit, par exemple, je vais donner qu'un seul exemple. On pense que Mozart, la fin de sa vie, il était pauvre, il a eu difficilement du succès, bon, à part la flûte à chanter, mais c'était en septembre, il est mort en décembre. Il est mort quand même dans la misère, c'était compliqué pour son épouse après. Mais ça ne se reflète pas du tout dans sa musique. Donc on peut dissocier l'homme visuellement ou extérieurement de l'individu, de la musique. Mais intérieurement, c'est impossible. Il vivait dans une société auprès de certains mécènes qu'il avait plus ou moins abandonnés. Il vivait à Vienne avec un public, avec des gens qu'il côtoyait. Donc moi, c'est la même chose. Je côtoie des gens. Les événements actuels, vous croyez qu'avec toutes les guerres qu'on a, si vous écoutiez le dernier mouvement de ma 10e symphonie, vous verriez effectivement qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe actuellement et ma musique.
J'allais en venir au cours de cet entretien, justement, parce que depuis le temps que l'on s'est vu, il y a 3 ans donc, on n'est quasiment, mais vraiment plus dans le même monde. Des tas de choses ont changé. Ça influe, ça, sur la façon dont vous travaillez?
Oui, ça influe dans la mesure où je trouve que l'artiste, l'artisan, je ne sais pas si on peut dire l'artiste ou l'artisan, moi je me sens plutôt comme un artisan qu'un artiste. Qu'est-ce que ça veut dire finalement le mot artiste? On a un rôle, je trouve, dans la balance, je le dis avec beaucoup de modestie, de rééquilibrer, pas le mal contre le bien, parce qu'on n'est pas dans Faust, on n'est pas dans ce cadre romantique, où le binôme est trop facile finalement, trop réducteur, mais on est là quand même, je pense, que ce soit un peintre ou même les gens du théâtre, pour ça, l'art en général, on est là pour apporter un bien-être, pour apporter un bonheur, une tranquillité, on est là pour faire rêver, on est là pour la beauté, on est là pour finalement aller au-delà des événements inquiétants qu'il y a actuellement.
Et on arrive à imaginer créer cette beauté dans un ordinaire ô combien compliqué?
Oui, non. Alors, oui, parce que moi j'écris, c'est terminé, je suis dans une bulle. Donc, si on vient me voir d'ailleurs, je peux avoir une crise cardiaque parce que si je suis dans un autre monde finalement, dans un autre univers. Sinon, je pense que ce n'est pas possible. Et non, parce qu'on est quand même obligé de tenir compte, inconsciemment, c'est ce qui se passe, vous voyez, dans ma musique, ça apparaît, il y a des éléments perturbateurs, il y a des éléments inquiétants, ils viennent là, peut-être par ma personnalité aussi, mais ma personnalité, elle est aussi liée par rapport au social, par rapport à ce qu'on vit. Donc vous voyez, c'est complexe, la création, c'est l'origine de la création, et l'évolution, elle est complexe, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Là, vous me faites faire un travail de psychologue.
L'orchestre va jouer votre 10e symphonie, Création.
Oui, ça c'est vraiment un moment important, parce que ça restera dans l'histoire de la symphonie, j'espère que ça restera dans l'histoire de l'orchestre aussi. Harry Van Beck va mettre son nom à la création aussi de cette partition, donc il a fait le choix de dire oui. Donc c'est un moment important, et ce n'est pas qu'un passage, c'est un moment, je pense, culturel dans la ville de Douai, dans l'orchestre, dans ma vie aussi, dans celle de tous les acteurs qui sont présents pour cette symphonie. C'est une symphonie, donc ce n'est pas une œuvre qui dure 5 minutes, et c'est une 10e, je le dis avec beaucoup de modestie, parce que je me demande d'ailleurs si comment j'ai pu écrire 10 symphonies, je pense que ce sera à refaire, je ne créerai pas 10. C'est fou d'écrire 10 symphonies. Parce qu'en plus, elles ne sont pas jouées ou peu jouées. C'est plus facile de jouer quand même des œuvres de musique de chambre. Là, par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle Valse Toscane, qui dure 6 minutes 50. Elle est pour orchestre à cordes. Elle a été jouée 6 fois en l'espace de quelques semaines. Parce que c'est plus facile à monter qu'une œuvre qui fait effectivement avec 60 musiciens et qui dure plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça, c'est compliqué. Mais peu importe le temps, peu importe l'instrumentation, peu importe le format de la pièce, ce qui importe, c'est l'authenticité. Ça, j'ai dû vous dire ça il y a 3 ans. Il faut que ça sorte de moi-même, et ça doit sortir. Il faut que ça sorte, sinon ça reste une frustration.
Comment vous travaillez avec le chef, là, actuellement, au cours des répétitions Il se tourne vers vous, il vous demande, vous lui répondez, vous le guidez ou vous laissez embarquer par ce que lui lit de vos partitions.
Alors, j'ai une totale confiance en Harry parce qu'il respecte la partition et les compositeurs. De lui-même, il a employé ce mot respect. Donc à partir du moment où il a cette attitude-là, je sais qu'il va faire au mieux par rapport à la partition. Il va regarder, d'ailleurs j'ai regardé la partition, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Je vu qu'il avait vraiment détaillé la partition. Donc ça, je lui fais confiance. Alors après, il se retourne de temps en temps vers moi pour me demander quand il a un doute, effectivement, sur les tempi, si c'est trop lent, pas un peu trop rapide, etc. Mais je lui fais vraiment confiance et quand j'estime que ça ne va pas, j'interviens. Mais finalement, je suis intervenu très peu de fois. C'est parce qu'il y avait souvent finalement un problème de gravure ou une croche à la place d'une noire, enfin un problème technique, mais pas sur le plan d'expression musicale. Il est tout à fait dans ma partition, donc c'est un excellent chef pour ça. Il a dirigé beaucoup de musique contemporaine, donc je pense qu'il a affaire à beaucoup de compositeurs. Et il m'a dit aussi une chose, je pense, qui est très importante, c'est que bon, la partition, pour l'instant, elle est en train de naître, puisqu'elle était sûrement sur du papier ou sur un format informatique. Donc peu importe. Là, elle est en train de naître. À partir du moment où il y a les musiciens, le son arrive. Donc il laisse moi cette possibilité de recréation. Et puis après, si effectivement il y a quelque chose à dire ou à rectifier, on le fait. Donc là, je laisse les musiciens travailler. Je laisse le chef d'orchestre aussi faire ce qu'il a à faire.
C'est-à-dire qu'il guide aujourd'hui une lecture à voix haute, on peut dire ça? C'est comme si vous aviez écrit quelque chose et que lui se lance dans cette lecture-là et vous donne à entendre pour la première fois ce que vous avez écrit, pensé, imaginé.
C'est que le phénomène, il est bizarre. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'entends, sur le papier, j'entends effectivement comment ça va sonner. Et après, il y a une confirmation ou l'inverse de ce qui se paraît avec les musiciens. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est la qualité des musiciens, c'est l'acoustique. Il y a un tas de phénomènes en dehors de la musique. Ce n'est pas que les notes, on va bien au-delà des notes. Gustav Mahler, compositeur post-romantique, disait de toute façon, la musique, elle va au-delà des notes. Oui. Et il disait même que les silences étaient aussi importants que les notes. Donc tout ça pour dire, pour résumer, qu'il y a un tas de facteurs au-delà des notes, au-delà de la partition, qui est là dans la... Les musiciens, est-ce qu'ils sont en forme, est-ce qu'ils ne sont pas en forme, est-ce qu'ils ne se sont pas disputés la veille entre eux, enfin, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tout ça, il y a un impact. Il y a eu plusieurs répétitions, et chaque répétition n'était pas la même. Alors évidemment, il y a une évolution dans la deuxième ou troisième répétition, c'est plus du déchiffrage comme la première. Mais malgré ça, comme je le dis, c'est plus complexe. Il y a d'autres facteurs. On peut imaginer que c'est une montée ascendante dans la progression de l'apprentissage de la partition. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais plutôt que c'est des marches. Comme on a un escalier, on franchit les marches et des fois on reste sur la même marche parce qu'on n'arrive pas à franchir une marche au-dessus. Et c'est très bien comme ça et on prend le temps qu'il faut. Malheureusement, le temps n'a pas beaucoup.
60 musiciens, 40 minutes pour raconter quoi ?
La vie. Je cite souvent Monteverdi, grand compositeur italien, qui disait, on lui a posé la question, genre, comment vous composez ? Qu'est-ce qui vous motive ? Et bien, je vais répondre la même chose que lui. Il a dit, mais vous pensez que l'artiste, il est complètement coupé du monde ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'instant. Il dit, non, c'est pas ça du tout. Et bien, c'est quoi la vie ? Mais la vie, il y a des moments sympathiques, des moments où on est heureux, des moments où tout va bien, mais qui alternent avec des moments plus difficiles, où il y a des décès, où il y a la maladie, où il y a des complications. Donc c'est ça, la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des complications, il y a des moments heureux. Et ben dans ma musique, c'est beaucoup le reflet de ça, en fait.
C'est-à-dire que chacun peut y retrouver des moments de sa propre existence ?
Oui, ça c'est au public de m'asseoir qu'il faudrait poser la question à la sortie du concert.
Mais c'est en tout cas le but recherché, l'objectif visé.
L'objectif de visée, c'est de partager quelque chose qui est en moi, que je pense qui est proche de la beauté. Pas tout le temps, parce que c'est compliqué. On n'est pas parlé de la beauté et puis on va pas philosopher là-dessus aujourd'hui. C'est pas le but, je pense, de l'entretien. Mais c'est de faire passer quelque chose qui je pense qui est bon, bien, transmissible, le partage. Si j'ai quelque chose qui me va nuire au public ou qui va déranger, mais dans le sens grave, destructeur, je ne vais pas faire. J'ai rencontré à Darmstadt il y a de nombreuses années, c'était un festival de musique contemporaine, et on lui disait, mais vos œuvres, là, elles sont quand même difficiles à écouter. Mais il disait, mais non, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Les gens, on doit vraiment les bousculer et on doit vraiment les terroriser. Non, 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 pas du tout. Ça ne sert à rien de terroriser les gens. Et donc, oui, il me disait, il faut les bousculer, sinon ils s'endorment. Non, sans aller jusque-là, je pense que par la beauté, par le rêve, peut-être par les moments plus inquiets aussi dans la musique, on peut arriver à sensibiliser le public.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée. Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille.
Extrait de la symphonie numéro 9 de Philippe Chamouard, le compositeur venu à Douai pour, avec l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France et le chef d'orchestre Harry Van Beck, créer sa 10e symphonie. Une rencontre entre artistes où la confiance, la reconnaissance du talent de chacun et le plaisir sont les fondamentaux qui magnifient l'instant de création que nulle technologie ne saurait remplacer.
L'IA va pouvoir faire du Philippe Chamouard, ça, comme il va pouvoir faire du Bach, ou du Handel, ou du Chopin. Ce n'est pas du tout un souci, ça, parce que finalement, c'est une application de ce qui a déjà été fait. Alors, il peut créer des nouvelles œuvres dans le style de, oui. Mais pour moi, je pense qu'il y aura toujours il y aura un côté humain qui sera... qui sera présent, qui sera indispensable. C'est la même chose quand vous écoutez la musique enregistrée et lorsque vous écoutez la même musique au concert. Voilà la différence entre, je pense, celui qui compose et l'IA.
Je pense à ça parce que, vous l'avez cité, Mahler. Ah oui, alors, justement, quelle place il a dans votre vie, ce garçon ? Gustave Mahler.
Je l'ai viré depuis longtemps parce que c'était le troisième, c'était l'amant de la maison, donc non, je plaisante. J'ai tellement été influencé par lui, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai tout détruit d'ailleurs en 87. Une des raisons, pas la seule. Je trouve que c'était tellement orchestrateur. Souvent, vous savez, quand on étudie la composition, on étudie dans des conservatoires avec des manuels de composition. Et là, je trouvais que c'était intéressant d'écouter sa musique parce que c'était, pour moi, c'est un des plus grands orchestrateurs. Avec Berlioz, qu'on aura d'ailleurs demain soir au concert, avec Richard Strauss. Donc, je trouve que c'est intéressant. On apprend beaucoup sur les partitions directes que sur des manuels. Donc, c'est cette... aspect-là. Et puis ce qui m'a plu chez Mahler aussi, c'est cette dimension aussi, justement, entre le tragique et l'élégiaque. Et il passe souvent de l'un à l'autre. J'ai aussi ces points communs. Maintenant, je pense que j'avais moins d'influence du point de vue du son, mais quelque part dans le concept de l'évolution de l'œuvre musicale, oui, par rapport à cette ambivalence et ce mouvement qui est toujours présent, je crois qu'il y a encore aussi un lien entre Mahler et moi, malheureusement.
Le cordon n'est pas encore totalement coupé.
Je sais pas, j'en sais rien. Je crois qu'il est peut-être pas complètement coupé, mais en tout cas, il est assumé dans la mesure. En fait, voilà, quand on écoute ma musique, on va pas dire c'est du Gustave Mahler. On peut dire oui, il y a une influence. On a tous une influence. Ravel, on disait aussi qu'il était influencé par Attel, donc tout, soit en peinture, soit dans tous les arts. Donc oui, l'influence, elle est là. On vit pas dans une bulle, donc il y a encore des petits rappels certainement qui sont présents d'une manière inconsciente, oui.
Alors, si j'en viens à Mahler, c'est parce qu'on parlait juste avant de l'IA. Gainsbourg avait repris également Mahler dans quelques-unes de ses compositions. Michel Bibi, c'est une inspiration. Est-ce que, justement, ça passe parce que c'est réalisé par un homme qui fait, là, cette fois-ci, de la chanson avec une réelle intention. Est-ce que c'est pas ça qui va faire finalement la différence de... On a l'impression aujourd'hui que la musique va devenir quelque chose qui va s'auto-fabriquer et ça questionne sur la place du créateur, du compositeur. Comme on peut maintenant lui demander de faire des photos et que des photographes s'en inquiètent pour leur art également.
Où est-ce que vous voulez en dire ?
Ben, je me demande, est-ce qu'on a encore besoin de compositeurs aujourd'hui ?
Donc ça veut dire, est-ce qu'on a encore besoin de l'art aujourd'hui ? Non, parce qu'il y a l'IA, c'est ce que vous êtes en train de me dire finalement.
Ah, je dis pas ça, je pose la question. Quelle réponse vous auriez à ça ?
Mais il faut poser des questions à un jeune compositeur. Moi, je suis vieux, donc je suis bientôt parmi les vivants. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que de toute façon, j'espère en tout cas que les œuvres des artistes qui vont mourir ou qui sont déjà morts prochainement... On ne va pas le mettre à la poubelle. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Oui, il y aura peut-être d'autres compositeurs qui seront... Je pense qu'il y aura une cohabitation. L'IA, je pense que... Regardez, par exemple, dans les usines, on utilise l'IA aussi. Mais il y a... Enfin, je n'y connais rien, mais ce n'est pas 100%. Il y a quand même un humain quelque part pour commander quand même les robots. Mais je pense que dans l'art, il y aura aussi quand même une part de l'humain qui va rester. Parce que sinon on va vivre tous sur Mars. Peut-être que ce sera encore un autre monde, je ne sais pas.
Ça vous influence dans votre façon de composer les rencontres avec les orchestres? Est-ce que le fait de rencontrer un orchestre comme celui de l'Orchestre de Douai, avec lequel vous avez travaillé pour la deuxième fois, ça modifie ou ça inspire le compositeur?
En ce qui me concerne, non, parce que ça voudrait dire que, quelque part, j'attends une commande. J'ai rarement finalement une commande, j'en ai eu. Et si j'attendais les commandes, je composerais très peu. Donc c'est plutôt l'inverse qui se passe finalement. C'est l'orchestre qui va accepter la partition. Alors évidemment, un orchestre peut me demander pour telle formation précise une œuvre. Donc ça, oui, ça peut se faire. Mais non, il faudrait que ça soit le son de l'orchestre éventuellement. Il faudrait que ce soit. Mais ce qui s'est passé, alors, je vais répondre directement. Il y a un clarinettiste ici à l'orchestre, Eric Perrier, qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas écrit un concerto pour clarinette. Bon, je ne sais pas l'avenir avec l'orchestre de Douai, vous voyez la suite. Donc là, effectivement, j'ai terminé la partition il y a une quinzaine de jours. Je vais un peu travailler avec la clarinette avec lui, d'ailleurs, prochainement, pour peaufiner certains traits, parce que je ne suis pas clarinettiste, donc on va toujours plus loin avec un musicien, même si je sais écrire pour la clarinette, ce n'est pas tout un problème. Mais avec lui, on va aller encore plus loin. Alors, vous voyez, par exemple, là, ça a très bien débouché, je fais une annonce avec l'Orchestre de Douai sur la création de mon concerto pour clarinette. Là, effectivement, ça sera lié à l'orchestre et en tout cas à un des musiciens de l'orchestre.
Votre dernière venue, il y a 3 ans, c'était pour une création également et pour un enregistrement. Est-ce que cette 10e symphonie qui va être créée à Douai, vous envisagez également d'en faire un enregistrement?
Oui, le lendemain. Alors la question se pose, est-ce qu'on va faire l'enregistrement live? C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre le concert, s'il n'y a pas trop de gens qui toussent, s'il n'y a pas trop de bruit, si les musiciens sont en forme, si c'est bien. C'est intéressant aussi de prendre en live, parce qu'on revient sur ce côté humain que j'évoquais tout à l'heure, et ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Et ça serait intéressant, je trouve, aussi, pour une de mes partitions, d'avoir ce concert donc, et cet enregistrement en live, et éventuellement après faire des raccords, ou sinon, effectivement, de choisir la version sécurisée et puis d'enregistrer, puis de couper pour que ce soit nickel. Mais il y a quelque chose aussi de factice quand c'est plus du live. Parce qu'on peut, au centième de seconde près, on peut modifier une note, on peut modifier une attaque. Enfin, tout peut être... On reprend, en fait, et c'est même trop parfait. Il n'y a plus d'humain quand on fait un enregistrement en studio. Parce que le moindre... Surtout maintenant, le public est tellement exigeant... Le moindre petite fausse note, le moindre petit grattage, le moindre petite chose qui ne va pas, le moindre poussière qui passe dans l'air, même si la poussière ne s'entend pas. On dit ça ne va pas du tout, tout. Alors que finalement, des fois, il faudrait garder le passage parce que s'il y a quelque chose de magique qui se passe, mais on va le supprimer parce qu'il y aura un petit bruit qui va être là et c'est vraiment dommage.
Donc il y a quand même une séance d'enregistrement qui est prévue vendredi?
Vendredi et samedi, oui, sur 2 jours.
C'est quelque chose que vous aimez quand même, ça? Vous disiez, rien ne vaut le live, rien ne vaut le moment. C'est autre chose que d'être avec l'orchestre pour un enregistrement à ce moment-là.
C'est deux façons de travailler complètement différentes. Quand c'est un live, il faut lâcher prise complètement. Là, c'est les musiciens qui ont toute la responsabilité, du début jusqu'à la fin de la partition. Alors après, on garde, on ne garde pas. C'est bon ou c'est pas bon. Et le travail en studio, le travail d'enregistrement après, c'est un travail vraiment plus collectif. Des fois, les musiciens vont s'arrêter eux-mêmes, vont dire non, ça, c'est pas la peine d'enregistrer. Des fois, ça va être le chef, des fois, ça va être l'ingénieur du son, des fois, ça va être moi. Donc, c'est un travail beaucoup plus collégial. Donc, ça n'a aucun rapport. Et les deux sont intéressants, enfin, je pense, parce que, comme je dis, j'ai jamais travaillé en live, mais je pense que c'est deux façons de travailler qui sont peut-être complémentaires ou intéressante. Je pense qu'il ne faut pas trop pousser la technique quand on travaille en studio. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il ne faut pas que ce soit trop parfait. La perfection, d'ailleurs, est-ce qu'elle existe sur Terre?
C'est le succès du dernier enregistrement avec l'Orchestre de Douai qui vous a invité justement à réitérer l'enregistrement avec l'orchestre.
Et oui, j'espère bien qu'on va faire un nouvel exploit.
Ça se mesure comment un exploit? En termes de vente, d'écoute de...
Non, je ne peux pas dire. Vous savez, c'est comme dans la variété, qu'est-ce qui fait un tube? Comment on peut savoir? Si tout le monde savait comment on allait faire un tube avant, ben, tout le monde ferait des tubes. Donc là, comment on peut savoir que ça va être super aussi? Bien sûr qu'on a déjà affaire à des bons musiciens. Harry Vandenbeck est un bon chef d'orchestre. Toutes les conditions vont être réunies pour avoir un bon travail. Mais ça ne suffit pas. Il y a toujours quelque chose d'impondérable, de magique ou non, qui va faire qu'à la fin, ça va être un bon disque ou un disque moyen. Vous voyez, le résultat, même si on est au maximum de nos possibilités, à tous, il y aura peut-être quelque chose. C'est ça qui est, je pense, magique dans la musique. On ne peut pas tout maîtriser. Et donc, dans un enregistrement, c'est la même chose. On va trouver que finalement, que c'était pas mal, c'était même très bien. Puis au bout du compte, ce ne sera peut-être pas si bien que ça. Je ne sais pas.
Enfin, on est à Douai, il faut qu'on en parle. Ville de 40 000 habitants, avec un orchestre, ce n'est pas courant. Vous saluez cet effort qui est fait par celles et ceux qui continuent, malgré des temps parfois compliqués, à apporter leur soutien à cet orchestre.
Oui, je trouve que c'est un orchestre formidable parce que ce n'est pas un orchestre avec des musiciens permanents. Donc ils font tous autre chose. Donc ça veut dire que c'est en plus de leurs activités professionnelles et musicales qu'ils se donnent du temps à l'orchestre. Donc ça, c'est forcément une passion, c'est forcément louable, c'est vraiment admirable, et je trouve qu'ils ne sont pas forcément, pas suffisamment aidés. Je m'avance un peu parce que moi je reste dans la musique, par les subventions, je ne sais pas, de l'État, ou certainement, oui, de la région peut-être. Il y a d'autres orchestres, donc je ne vais pas citer, qui ont d'énormes subventions. Je pense que l'orchestre de Douai mériterait d'avoir des subventions, oui, bien plus importantes.
Et de l'importance d'avoir une structure dans une ville de cette dimension, ça renforce également l'idée d'accessibilité, de proximité avec le public. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'aller à Amiens ou d'aller à Lille pour rencontrer un grand orchestre quand on est à Douai.
Oui, je ne sais pas s'il est... Comment on dit, les Douaisis ?
Douaisiens,
pardon. Ont cette conscience d'avoir cette chance-là, parce qu'il y a beaucoup de villes de 40 000 habitants où il n'y a pas d'orchestre, il y a pas de, souvent c'est un gymnase, il y a quand même une salle il y a quand même une belle salle ici, il y a une belle acoustique aussi, donc c'est vrai que c'est une chance, et des fois on ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on peut avoir effectivement dans une ville de moyenne importance d'avoir cette structure.
Vous auriez aimé vivre dans une ville telle que celle-ci justement?
Douai est une ville agréable. Moi, j'ai l'occasion j'ai du temps de libre, de me promener. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très, très agréables. Et c'est une ville où je n'ai pas le stress. J'habite la région parisienne. Et malheureusement, Paris et la banlieue aussi, et c'est un monde vraiment à part. Et là, à Douai, les gens sont sympathiques. Les gens du Nord sont fermés, mais pas du tout. Ils sont vraiment, je trouve, ouverts, sympathiques, calmes. Ils ne s'excitent pas. On ne laisse passer au passage piéton. Donc oui, c'est une ville qui pourrait peut-être me permettre de prendre ma retraite. Je ne sais pas.
Ça existe, la retraite, pour un compositeur?
Et pourquoi pas?
C'est vous qui allez décider?
Le jour où je n'aurai rien à dire, oui, ou le jour où je serai plus capable d'écrire, bon, ça c'est un autre problème. Mais il y a des compositeurs, je prends le cas de Rossini. Écoutez bien, les 40 dernières années de sa vie, il n'a pas écrit une seule note. Vous savez ce qu'il a fait? La cuisine. D'où ce fameux tourneau de Rossini. Donc vous voyez, donc lui, il avait, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais il avait estimé qu'il avait eu énormément de succès, il avait écrit beaucoup déjà. Bon, il a estimé qu'effectivement que sa carrière était terminée. Moi, c'est une nécessité, c'est-à-dire ce jour où c'est plus nécessaire, où je sens plus cette nécessité d'écrire, de poser sur le papier, parce que je suis encore finalement à écrire sur le papier, eh bien oui, j'arrêterai d'écrire. Donc ça sera ma retraite à ce moment-là, mais ça se fera naturellement ou pas.
Et la transmission? D'avoir des élèves, ça compte dans la vie d'un musicien, d'un compositeur?
Oui, j'enseigne toujours le piano, entre autres, parce que je trouve que la transmission, alors c'est pas tellement par rapport à la composition, là, c'est par rapport à la musique. C'est une chance de pouvoir, aussi bien aux petits qu'aux plus grands, transmettre son savoir, de transmettre, d'apprendre la musique, de faire découvrir aussi les compositeurs, d'apprendre le piano. Quel que soit le niveau de chacun, quel que soit le niveau final, c'est pour moi, la pédagogie, c'est quelque chose que je ne peux pas dissocier de la composition, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de cette transmission, de ce va-et-vient, et je peux d'ailleurs être très en forme et avoir des idées après un super cours de piano, avec un enfant qui m'aura dit peut-être un sourire, qui m'aura dit une phrase. Et vous voyez, vous me faites dire des choses, c'est du même de l'inconscient. Et après, il va y avoir des idées qui vont venir. Donc vous voyez, les deux aussi sont liés, la pédagogie, la transmission, la création, l'humain.
Je vais vous souhaiter de passer une bonne fin d'après-midi. Demain, c'est le jour de la création. Vous allez où ? Être dans quel coin pendant que l'orchestre va s'exécuter ? Vous serez dans la salle, dans les loges, en coulisses ?
Alors non, je fais partie de ces compositeurs, j'aime bien être dans la salle. Parce que dans la salle, finalement, je suis proche du public. Donc je regarde un petit peu ce qui va se passer.
plus inquiet pour la réaction du public que pour la capacité à l'orchestre.
À l'orchestre, je fais confiance. Donc je sais que ça va très bien se passer. Mais par contre, le public, je crains toujours la réaction du public. Parce que sans le public, oui, je n'écris pas pour faire plaisir au public. Non, surtout pas ça. Mais je souhaite qu'il y ait cette passerelle entre le public et ma partition. Et si les gens n'écoutent pas, ou ça leur plaît pas, ou s'ils se trouvent, enfin peu importe, je veux dire, si la réaction, si elle est brutale, c'est, je me dis, ben, finalement je suis passé quelque chose qui, même si on peut pas plaire à tout le monde, forcément, même Mozart, moi j'aime pas toute la musique de Mozart, donc quand on tombe dans le domaine public, on peut pas plaire à tout le monde. Je conçois très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique de Philippe Chamoir, mais quand on est dans un concert, une création, et qu'on est là, on aimerait que ce soit quand même la majorité qui soit partie prenante.
Merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée.
Merci à vous.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 105.